Amis motards, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans FFMC 46, l'écho du bitume, votre rendez-vous moto sur les ondes de CFM Radio de Cahors. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible qui touche autant qu'il inspire. On parle de courage, de volonté et de passion, parce que la moto sur deux roues ne s'arrête pas forcément à une différence ou à un accident. Le titre du jour, avec mon handicap mais jamais sans ma moto, ce sont ces motards que nous mettons à l'honneur aujourd'hui pour une émission où la passion dépasse les limites. Alors pour ce faire, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux invités. Un en studio, Césario. Bonjour Césario, merci d'être là.
Bonjour Stéphanie.
Et aussi Philippe Winter par téléphone, à distance, qui nous vient des Vosges. Merci Philippe d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu ?
Bonjour Stéphanie, ça va, merci.
Alors, pour commencer cette partie-là, on va rentrer dans le vif du sujet qui peut être parfois délicat. Donc si jamais une question vous dérange, n'hésitez pas à m'arrêter, puisque l'idée c'est de rester bien sûr dans toute la bienveillance. Mais comme le titre l'indique, avec mon handicap et jamais sans ma moto, alors Césario, si tu es d'accord, peux-tu nous partager ton histoire et ton handicap ?
Bah, mon histoire, ça s'est arrêté le jour au bord de la route, une nuit, je veux dire, une nuit au bord de la route, brumeuse, avec beaucoup d'humidité, la moto s'est arrêtée, et j'ai regardé ce qui se passait sur le bas-côté, en plein dans les bois, et j'ai été percuté par un véhicule qui a doublé sur une ligne continue dans un virage, il m'a pas vu. Et je me suis retrouvé par terre, la jambe à plus de 30 mètres, dans les bois, et après l'hôpital, et la rééducation, et la passion qui est restée, la moto. Et donc j'ai passé mon permis gros cube, et j'ai préparé ma moto pour aller à l'auto-école, et passer mon permis avec ma propre moto, puisque l'auto-école ne possédait pas de moto adaptée.
D'accord.
Et donc, j'ai eu mon permis.
Et bravo, félicitations. Donc ça veut dire que ta première moto, au moment de l'accident, c'était une 125.
Ah non, c'était une 125 Suzuki, GT Suzuki, oui.
D'accord. Donc effectivement, on entend dans la force de ce que tu partages de suite, c'est l'impact de ce changement de vie, de ce bouleversement.
La vie s'est arrêtée ce jour-là.
D'accord, oui. Et du coup, toute la partie rééducation, ça s'est fait où ? À Aubagne comme,
Non, pas du tout, à Valenton dans le 94.
D'accord. Et toute cette période difficile
Non.
Tout de suite pour toi, ça a été...
La vie s'est arrêtée là, et puis c'est une autre vie qui a recommencé, quoi.
Voilà. D'accord, oui.
C'est une coupure.
Ça se fait sur plusieurs mois, j'imagine, tout ce cheminement.
Oui, enfin, l'hôpital a été très, très rapide. Après, j'ai passé un mois en rééducation et puis pose d'une prothèse adaptée.
Oui.
À l'époque, c'était encore assez archaïque, je dirais. Les prothèses étaient en bois, c'était un peu... aujourd'hui, c'est confortable, c'est des alliages très légers, du carbone, voilà, tout a changé, quoi.
Tout a changé en quelques années, et c'est tant mieux d'ailleurs.
Bah, oui.
Et par rapport à ce témoignage, Philippe, est-ce que tu te reconnais dans ce parcours et cette histoire ?
Tout à fait, oui, j'avais 18 ans, j'allais au lycée, une 125 RDX Yamaha, et je prends un camion dans un virage qui n'a rien à faire au milieu de la route. D'accord. Donc je laisse le bras gauche qui est paralysé depuis, donc ça fait 46 ans que je suis comme ça. Ouais. Et moi j'étais inscrit au permis moto à l'époque, hein, donc juste avant de passer l'épreuve, je me retrouve comme ça, quoi. La 500 fours attendait dans le magasin pendant chez moi. Donc c'est pareil, c'est ce que dit
je sais plus
son prénom,
c'est
Dario, voilà, la vie s'arrête, hein, c'est une autre vie qu'il faut tout reprendre. Hein. Ouais. Changer d'orientation professionnelle, tout ça. Ouais. Mais moi j'ai jamais oublié la moto, hein, quelque part elle était restée dans le coin de ma tête. Et en 95, j'ai eu la chance de rencontrer un gars qui était comme moi, qui avait perdu un bras et qui construisait des sidecars aménagés.
D'accord.
Et qui pouvait rouler. Et il m'a présenté l'association Handicap Motard Solidarité. Donc je les ai contactés, c'était une dizaine de gars qui avaient perdu un membre, un morceau d'eux, et puis qui voulaient faire de la moto. Et à l'époque, dans les textes, c'était inscrit moto et handicap incompatibles. Donc il n'y avait pas de possibilité de le faire, oui. Donc on s'est battu, c'est pour ça que je suis rentré dans la sauce, on s'est battu, on s'est dit, on a une association, on sera plus fort. On s'est battu, et en 96, j'ai pu repasser un permis. Alors à l'époque, c'était que le sidecar, hein. Ils autorisaient rien d'autre que le sidecar, donc je me suis dit, je prends le sidecar, et puis je verrai après, je reviendrai au solo plus tard. Donc, et depuis, je suis resté en handicap motard solidarité, parce que ce que dit Césario, j'arrive pas décidément. Il n'y a pas de véhicule adapté dans les moto-écoles pour les personnes avec un handicap. Mmh. Et avec l'association, c'est tout de suite dit, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc au départ, on se prêtait nos véhicules entre nous, un peu partout sur toute la France, pour récupérer les permis. Et très vite, l'association, à partir de l'association est née en 95, en 99, on avait notre premier véhicule adapté qu'on pouvait prêter partout sur toute la France.
D'accord. Et maintenant, parce qu'il faut, préciser, excuse-moi Philippe, que tu es donc président depuis 27 ans de cette association incroyable Handicap Moto Solidarité, dont le siège est... Solidarité, et dont le siège est à l'Essonne, mais rayonné sur toute la France, effectivement.
Voilà, on rayonne sur toute la France. Le siège est dans l'Essonne parce qu'il nous faut un endroit pour stocker et stationner nos véhicules, parce que maintenant, on a une flotte de 9 véhicules adaptés. 2 sidecars, 2 motos en boîte automatique et 5 motos solo qu'on a adaptées pour différents handicaps. Et toutes ces motos-là, elles partent dès qu'on a un candidat qui vient avec un handicap, on lui prête la moto, il la prend et on lui assure par le biais de la mutuelle des motards. Et il va dans son auto-école passer son permis ou régulariser son permis.
Ou régulariser son permis, parce que donc ça veut dire, tu peux me parler là de la régularisation.
Alors le passage du permis, c'est quand vous avez un handicap de naissance ou autre, donc vous n'avez pas le permis moto, et la régularisation c'est quand vous avez déjà le permis moto et qu'il vous arrive un handicap. Alors peu importe que ce soit moto, accident de la vie ou voiture, et que vous voulez récupérer votre permis moto. Parce que dès qu'un véhicule est aménagé en moto ou en voiture, ces aménagements doivent figurer sous le permis.
Oui, donc, sur la carte grise aussi.
Spécialement sur la carte grise. Pour les motos, c'est pas. Oui. Okay. Oui, pour les voitures, oui. On en parle. Mais les motos, c'est tellement, il y a peu de cas quand même. Hein. Ça reste marginal, le permis moto avec le handicap. Hein. Il y en a beaucoup plus en voiture. La première chose, c'est la voiture, c'est la mobilité. Et on revient au permis moto après par passion et par plaisir. Nos véhicules servent à ça, à ce que les gens passent une épreuve de régularisation sur une moto adaptée en fonction de leur handicap.
Césario, tu connaissais cette association ?
Du tout.
Pas du tout ?
Du tout.
D'accord. Ah oui, ça fait 30 ans qu'on existe, quoi.
En 81, il n'y avait rien de tout ça.
Ils existaient déjà.
Ah oui, mais...
Non, on est né en 95. Et mon accident, je l'ai eu en 79, donc peu de temps avant Césario.
D'accord. Ouais, oui.
Tout à fait. Okay. Moi, je l'ai eu en 82, oui.
Oui.
J'avais 18 ans.
Voilà, moi, j'avais 18 ans et il n'y avait absolument rien concernant le handicap et la moto.
Non. Alors, pour revenir par rapport à votre histoire, justement, trouver la niaque, ne pas avoir envie de renoncer à la moto après un tel changement de vie, hein, comme vous le disiez tous les deux sur le quotidien. Effectivement, il y a le travail, il y a le quotidien en général. Comment ça se passe vis-à-vis de votre entourage ? Est-ce qu'ils essayent de vous en empêcher en disant « mais t'es pas fou, en plus c'est super dangereux la moto » ou au contraire, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de soutien ? Comment ça s'est passé aussi par rapport au monde des motards ?
Pour moi, les gens sont admiratifs. Mais pour moi, c'est normal. On s'arrête pas...
C'était une évidence.
C'était une évidence, quoi. Ça aurait été.
Capituler que de lâcher ça, quoi.
Non, puis j'aime. Enfin, depuis tout petit, j'ai commencé avec un Solex. Et après, une mobilette. Et puis, le deux roues m'a toujours passionné, en fait.
Oui. Donc, ça n'allait pas s'arrêter, effectivement.
T'as raison. Oui, c'est une histoire de passion, hein, c'est tout. Hein.
Oui, oui.
Moi, dans ma chambre, il y avait les posters de Michel Rougerie, Patrick Ponge, Arnaud Sarinen, Barry Sheen. Donc le jour où tu as un carton comme ça et que ta vie s'arrête, tu ne penses qu'à une chose, c'est à faire de la moto.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'il faut convaincre l'entourage. Hein. C'est surtout les parents en direct qui sont, qui sont concernés. Donc moi, j'ai repassé le permis seulement 15 ans après. Donc la situation de ce côté-là ne se présentait plus. Il y a simplement que je fasse admettre à mon épouse que c'était possible, quoi. Elle a accepté.
Et ça, c'est beau, et c'est essentiel, effectivement, de convaincre et d'être emporté et accompagné par l'entourage. Si vous voulez bien, on va reprendre juste après un instant en écoutant de suite Vanessa Paradis avec Marilyn et John. On coupe les gaz et on repart ensemble dans quelques minutes, toujours sur CFM Radio de Cahors pour FFMC 46, l'écho du bitume. Merci, à tout de suite.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot. CFM Cahors, CFM, l'esprit rock.
De retour sur CFM Radio de Cahors, dans l'univers des motards de notre émission FFMC 46, l'écho du bitume. Et donc aujourd'hui, j'accueille nos invités Césario ainsi que Philippe par téléphone, toujours pour l'émission avec mon handicap, mais jamais sans ma moto. Alors dans cette première partie, on y est allé fort. On a commencé direct par l'accident, les conditions, mais surtout la résilience et votre courage pour ne pas lâcher votre passion. En ce sens, justement, on a dit brièvement qu'il fallait le soutien de la famille, de l'entourage, certes, mais si vous deviez donner un conseil à un auditeur, une auditrice qui serait aujourd'hui dans le début de cette reconstruction, qu'est-ce que vous lui diriez pour ne pas lâcher son rêve ?
Ah bah moi je lui dirais que tout est possible, hein. On en est la preuve vivante, nous, hein, qu'on peut refaire de la moto malgré le handicap, hein. Ouais. Bah, je lui conseillerais, moi, de nous contacter, Handicap Motard Solidarité, pour qu'on l'aide, hein, tant sur le plan administratif, pour les visites, sur le plan d'aménagement de sa moto, comment en faire en fonction de son handicap, et puis lui mettre éventuellement une moto à disposition pour qu'elle passe son permis, ou régulier son permis dans les meilleures conditions.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas d'obstacle, hein, et d'autant plus qu'en plus, les textes ont bougé maintenant. Sous notre impulsion et celle de la FFMC, maintenant c'est marqué dans les textes, moto et handicap sont compatibles sous réserve d'aménagement de véhicules.
D'accord, oui, tout à voilà. Fait, ça c'est hyper
voilà.
Important, c'est un combat,
c'est
de,
voilà.
Un combat de 20 ans, ça, de procédure.
C'est un
j'imagine.
Combat de 20 ans pour faire modifier deux lignes sur un texte.
Deux lignes sur un texte. Et toi, Césario, qu'est-ce que tu dirais comme phrase inspirante pour...
Bah, qu'il faut toujours garder l'espoir et que tout est possible... à partir du moment où on a envie.
Voilà.
Moi, l'envie. Je dirais l'envie de vivre, l'envie d'épater, l'envie de s'épater soi-même.
Ouais, c'est au-delà du challenge.
Moi, je suis ouvert à tout. Je suis autodidacte. Je fais de l'ULM, je fais du parapente.
Ah oui.
Je ne m'arrête jamais, quoi. C'est à 62 ans. Non, je veux continuer, quoi.
Tu veux dire presque que
Allez-y.
En fait, finalement, on peut se reconstruire de tout. Il y a que la mort qui est irrévocable. Là, quand on est bien vivant, quel que soit le handicap, il faut y aller. Il faut une passion.
Il faut se créer une passion, même si on n'en a pas. Il faut se la créer. On a tous une passion.
On a tous une
tous,
passion.
Tous.
Alors, Philippe...
Après, la passion, c'est une motivation supplémentaire.
Oui.
Nous, on a des gens dans les centres de réadaptation qui nous disent « Donnez-nous des prospectus de votre association. Si ce sont des motards passionnés, ça va les sortir du lit. »
Oui.
Le fait de savoir que demain, le gars pourra remonter... Alors, je ne dis pas qu'il le fera, hein, parce que, comme on disait, il va falloir convaincre la famille, les proches. Mais déjà, le fait de savoir qu'il peut... Ça va le booster, ça va lui donner un moral d'enfer, quoi.
Oui, et puis aussi de retrouver des semblables, parce que c'est vrai que nous, valides, pour avoir accompagné encore cet été un ami qui est en train d'être dans ce plein combat suite à un accident au mois de mai, je te salue bien fort d'ailleurs, Will, qui est à Aubagne, il y a le regard des autres, du public, et le fait d'être avec d'autres potes motards, motardes, qui ont un handicap, il y a des choses qui s'expliquent pas, où tu as une sensation, vous m'arrêtez si je me trompe, aussi de tout de suite se comprendre et de parler des sujets forts, non, parce que nous les valides, des fois, on est gêné, on est maladroit d'ailleurs aussi, non ?
Oui, alors HMS, c'est une famille. Hein. Moi, j'aurais pu très bien lâcher l'affaire puisque j'avais récupéré mon permis.
Oui.
Mais j'y suis resté parce qu'il y avait beaucoup d'autres gars qui étaient comme moi.
Hein. Oui.
On a une passion, la moto, et on a un autre bien, c'est le handicap. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est qu'on parle très rarement de ce qui nous est arrivé.
Ah oui ?
On se comprend sans en parler.
Alors, voilà, c'est ça.
Voilà, on va en parler un peu au niveau des douleurs des membres fantômes, tout ça, pour voir t'as mal, toi, en ce moment, est-ce que t'as un traitement qui marche. Mais la plupart des copains, enfin des gars chez nous, moi c'est des potes maintenant, depuis 30 ans, je sais même pas ce qu'ils ont eu comme accident, on en parle très peu.
Mm-hmm.
On vit normalement, quoi.
Oui.
Voilà,
oui.
Ouais,
t'es d'accord avec ça, Césario, je te vois aussi.
Ouais, moi,
la tête.
Les gens qui m'entourent, même ceux. Enfin, moi, je côtoie pas, à part le père de mon beau-fils, qui lui manque une main. Je côtoie pas spécialement des handicapés, mais des gens non handicapés, même des fois ils me disent mais j'avais pas vu que t'étais handicapé. Ils sont étonnés parce que je vis comme tout le monde.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors tu disais tout à fait de toute façon, Philippe, qu'on pouvait vous retrouver sur votre site internet.
Oui,
déjà.
Oui, ou sur une page Facebook où on explique ce qu'on
voilà,
fait.
Ou sur la page Facebook. Donc oui. N'hésitez pas, auditeurs, auditrices, à aller voir, visiter et puis surtout appeler parce que vous avez aussi une super disponibilité. J'en ai eu la preuve en vous contactant à plusieurs reprises pour se préparer cette émission. Une disponibilité au niveau téléphone. Donc, comme tu disais, vous vous retrouvez sur toute la France. Alors, comment ça se passe pour quelqu'un qui vous contacte ?
Soit il prend le téléphone, soit il entend parler de nous par le biais de la page Facebook et autres, et il vient nous rencontrer sur des manifestations. On essaie de faire les grosses manifestations moto, parce que là, c'est là qu'on touche des passionnés. On est au Bol d'Or, on est au Grand Prix de France, on fait le Salon de la moto à Lyon. Oui. Et bien souvent, un motard, soit il vient parce qu'il est handicap, ou il vient parce qu'il a un copain qui est handicapé. On a tous ça dans la famille motard. On connaît tous quelqu'un qui a perdu un membre ou qui a été accidenté. Et là, le gars nous dit, mais mon pote, il pourrait rouler. Ben, je dis oui, et on lui explique, et ça part comme ça. Oui.
Toi, à côté de ça, toi donc, du coup, Césario, ça veut dire que, comme en plus l'association n'existait pas, comment t'as procédé pour pouvoir rouler et préparer ta moto? Comment qui t'a conseillé?
Personne. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis autodidacte, donc j'ai fait beaucoup de métiers, donc je réfléchis et puis je mets en œuvre.
D'accord.
Je mets en œuvre. Le début, c'était compliqué parce que j'avais un 900 bol d'or pour passer le permis. Il a fallu que je mette, au début, c'était des câbles, un aller, un retour. Mais le problème, c'est qu'il y avait trop de frottement dans la gaine et les câbles résistaient plus ou moins. Aujourd'hui, l'adaptation que j'ai sur ma moto, c'est un renvoi dans le cadre. C'est tout en rigide avec des rotules et ça marche super bien.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise ou d'enseigne qui vous prépare des pièces?
Oh si, je pense.
Très peu, parce que ça reste marginal. Alors il n'y a pas d'homologation en plus sur les aménagements. Dans les textes, c'est marqué qu'il faut que les modifications soient faites dans les règles de l'art. On ne peut pas homologuer des pièces moto parce que les motos sont tellement différentes et... c'est marginal, quoi. Personne ne veut le faire. En voiture, oui, il y a un marché, pas en moto. Donc nous, on travaille avec des constructeurs de site parce qu'ils ont les machines-outils pour construire, pour souder. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec la générosité de nos adhérents, quoi. Oui. Ils trouvent un truc, ils disent ça marche, il faut faire comme ça. Et puis on regarde et on étudie. Et puis maintenant, il y a des imprimantes 3D. Donc on arrive à fabriquer des pièces en imprimante 3D. Et après, il s'agit de trouver un... S'il faut une patte pour un renvoi ou adapter une rotule, après on trouve un petit artisan, un chaudronnier, un soudeur, et puis on fait fabriquer, quoi.
Bravo.
Ça, c'est génial.
C'est ça. Moi, j'ai tout fait moi-même, mais c'est ça qu'il faut faire, ouais.
Parce que chaque
moto est différente. Voilà, aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, c'est plus facile parce que au niveau du bras oscillant, souvent c'est creux, donc on peut passer quelque chose dans le boulon central. Avant, on ne pouvait pas.
Voilà. Sur le côté technique, hein. Mais nous on commence à être confronté à des difficultés, c'est que le côté électronique, quand il faut qu'on bascule un embrayage de la main droite un accélérateur de la main droite à la main gauche, maintenant avec les accélérateurs électriques, les faisceaux multiplexés et ça, on a de plus en plus de mal à adapter les machines. Tant que c'est la fabrication d'une patte, d'une soudure, d'un renvoi, ça c'est possible, mais au niveau électronique maintenant, ça devient compliqué.
Alors, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Je suis d'accord avec toi.
Et alors, du coup, après, vous avez... c'est votre propre validation, à force d'essai, de voir que votre aménagement convient pour être à l'aise dans le pilotage, ou vous avez une partie, je dirais, de réglementation, où il faut faire valider votre transformation de véhicule?
Ah non, il n'y a pas de... C'est l'inspecteur qui regarde la moto quand vous venez passer votre régularisation ou votre permis.
Ah, d'accord.
Il regarde par rapport au texte. Il y a des codes, par exemple, embrayage déplacé, freinage adapté, et puis il regarde, et puis il valide l'aménagement.
D'accord, voilà.
Mais oui, nous on conseille aux gens d'assister à la fabrication pour une question d'ergonomie. Moi, je viens de m'adapter à un vieux sidecar là que j'ai récupéré. J'ai passé plus de temps à réfléchir comment faire, comment adapter qu'à faire. Mais je l'ai fait moi-même, vous voyez, avec un bras. J'ai réussi à déplacer mes câbles, à faire un accélérateur au pied. Sur mon sidecar, j'ai fait comme ça et je l'ai fait tout seul. Mais j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, à démonter, à recommencer. Mais après, c'est une satisfaction personnelle d'y arriver.
Ah oui, carrément.
Voilà, avec un...
Alors là, ma machine prend tout son sens. C'est vraiment ma, parce que c'est toi qui as participé à ça. Et alors, chez HMS, enfin moi par exemple, je connais que dalle à la mécanique. Si une personne vous contacte, vous pouvez aussi, comme tu disais, par solidarité, l'accompagner, créer
oui,
avec
on peut
elle.
On peut l'aiguiller, on a 2-3 contacts avec qui on travaille, avec qui on fabrique des pièces.
Oui.
On peut l'aiguiller pour... comment dire, pour qu'il ait ses pièces. Et même là, nous, on est en train d'en fabriquer en plus. On en fait faire plusieurs, comme ça on pourra les revendre à nos adhérents. Quand ils ont besoin, mettons, d'un déport pour mettre l'embrayage à droite, il faut une patte supplémentaire, ben, on en fait fabriquer plusieurs, et puis comme ça on les rétrocédera à nos adhérents, sans faire de bénéfice d'ailleurs.
Ben, écoute, super, et quand, si vous voulez bien, on va refaire un petit court virage musical avant de reprendre la route avec vous, Cesario et Philippe, en écoutant James Blunt 1973. A tout de suite sur CFM Radio, FFM C46, l'écho du bitume.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
Your journey's been etched on your skin, Simona. Wish I had known that what seems so strong.
CFM Radio, votre radio dans le Lot.
On se retrouve donc sur CFM Radio de Cahors, FFM C46, l'écho du bitume, toujours accompagné de Cesario et Philippe, les invités du jour. Donc, nous parlions du PRMI, de la régularisation, un peu de la technique. Personnellement, vous, justement, au niveau technique, c'est quoi le plus grand défi que vous avez dû relever ? Par exemple, Cesario, t'as une idée en tête ?
Le plus grand défi, je suis en face de lui en ce moment. En fait, le plus grand défi, c'est de... Parce que j'ai pas la possibilité de rétracter la béquille. Et je suis en train de trouver un système électrique qui me permet que quand je m'arrête, je l'enlève. Et quand je repars, je l'enlève et quand je m'arrête, elle se déplie.
Philippe, tu as déjà eu ce cas autour de
oui,
toi?
Oui, alors moi je dirais à Césario de rester en contact avec nous parce qu'on a beaucoup d'aide
avec plaisir. Avec plaisir.
Et on est en train d'y réfléchir. On est en train d'essayer de trouver un truc avec un petit vérin électrique pour cette béquille.
Moi j'ai en train d'étudier sur un vérin double effet.
Oui. Alors, ça serait bien qu'on reste en contact rien pour ça, fait. Parce que ça peut servir à beaucoup de gens qui ont des amputations. Oui.
Jambe gauche.
Oui.
Voilà.
Oui.
Eh ben, j'hésiterai pas.
Parce que c'est à mon âge maintenant. Avant, j'y arrivais à aller avec la main rétracter. Oui. Mais à 62 ans, je m'aperçois que ça devient compliqué.
Oui. Alors nous, on avait prévu par un temps un genre de baguette télescopique pour aller attraper la béquille d'une main et tirer dessus.
Avec un petit crochet. Oui.
Ce qui peut après, comme c'est télescopique, se replier facilement et être mis dans la sacoche réservoir, mettons.
Oui, mais maintenant, avec les technologies d'aujourd'hui, on arrive à trouver un truc super. Hein.
Oui, c'est des défis. Alors, nous, le plus grand défi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de passer à un accélérateur électrique qui, à la main droite, de passer à la main gauche maintenant.
Ah oui,
avec les contraintes électroniques des motos, les TFT et tous les modes qu'il y a sur les guidons, ce sont des vrais ordinateurs de bord. Et en plus, quand vous avez qu'une main, il faut déplacer, il faut que les deux commodos soient du même côté.
Eh oui, je sais bien.
Pour avoir accès avec le pouce et avec les autres doigts sur les deux commodos. Donc ça devient un défi maintenant pour nous, alors que c'était pas trop un problème avant.
Oui. Entre une jambe et un bras, c'est pas pareil.
Non, ce ne sont pas les mêmes aménagements.
Il y en a un qui peut courir et l'autre pas.
Voilà. Et c'est plus facile d'aménager un passage de vitesse électrique, mettons, sur une moto, que le reste. Et puis d'autant plus que maintenant, il y a de plus en plus de motos qui sont en boîte automatique. Donc, même avec une amputation, à gauche, on peut rouler presque sur une moto normale sans avoir à l'aménager.
Ouais. Enfin, moi, j'aime bien passer les vitesses quand même. Hein.
Oui, je comprends.
Je suis un peu vintage.
Oui, puis ça fait partie du plaisir de pilotage. Parce que
faut rouler sur des motos vintage, c'est écologique. De toute façon, vous gardez nos anciennes.
Ah, ouais, ça, c'est clair. Il y a aucun...
Et puis, ces motos-là ont du caractère plus que celles qu'on a maintenant.
Ah, tout à fait.
Oui.
Ah, oui, oui. Ah, oui.
Moi, je suis entre deux. Je suis entre le vintage et le moderne.
Ouais, ça va, on te pardonne.
Alors que moi, j'ai une BMW de 1978 et un Hayabusa de 2003. En sidecar, les deux en sidecar. Mais voilà, d'ailleurs, je serais absolument pas quoi acheter maintenant, ni comme je me fais assez plaisir avec ces deux motos-là.
J'ai des passionnés autour de moi au niveau BMW.
Et moi, j'ai une Virago 750 XV de 1992.
Ah oui, je connais, mon frère en avait une. Ouais.
On n'en voit quasiment plus maintenant.
Non, c'est vrai.
C'est beau, déjà, on voit toute la synergie et puis le partage. Alors, sur l'Occitanie, donc je vous donnerai respectivement votre téléphone pour que vous puissiez reprendre contact. Mais sur l'Occitanie, Philippe, l'association HMS, vous avez un contact en particulier, un lieu plutôt, vous êtes dirigé plutôt sur où
pour qu'on... Alors, on fonctionne, si tu veux, on a des référents. Quand on a une personne qui est... Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de bureau, on est que 300 adhérents.
D'accord.
On n'est qu'une petite association. Donc quand on a quelqu'un dans une région qui est handicapé et qui roule en moto, il devient un peu référent. Et il va voir des gens qui ont des problèmes pour leur expliquer comment aménager leur moto. Ou les gens viennent le voir. On les met en contact entre eux. C'est comme ça qu'on fonctionne.
Tu parlais tout à l'heure de votre présence sur les salons et autres. Le prochain événement où vous serez présent, où on peut venir vous rencontrer, c'est où et quand ?
C'est à Lyon.
À Lyon.
La moto à Lyon. Oui,
on se donne rendez-vous.
On se donne rendez-vous là-bas, pas de problème. Oui.
Zario, tu relèves
tout
le
défi. Tout est possible.
Fin février.
Tout est possible.
Si on le dit maintenant, tu le bloques, t'es pris. On fait un groupe, on y va. On va aller voir. Ça serait chouette.
Pourquoi pas ? Ça serait intéressant.
Comme ça.
Ça serait intéressant de se rencontrer, oui.
Oui. Oui, et nous, on a quelque chose aussi de très important de prévu au mois d'avril, c'est qu'on va discuter avec des personnes du... Je sais plus si c'est le ministère de Transport, non, je sais plus comment ça s'appelle, ça change tout le temps, de la législation sur les permis européens pour le handicap. Et nous, on y va pour montrer... les aménagements qu'on préconise sur nos motos.
Oui, justement, parce que tu as connaissance que ça existe ou au contraire que c'est totalement absent au niveau des autres pays de l'Europe ou c'est déjà... Est-ce qu'on est en retard?
Non,
est-ce que
c'est bien avancé? Nous, on est en avance.
Ah bah pour une fois, attends, une minute de silence. Ouais,
ouais.
Une minute de bruit. On est en avance.
Je sais que c'est génial. En Angleterre, il y avait une autre législation, mais ils font plus partie de l'Europe, donc...
Ouais.
Voilà, mais non, nous, on en avance à certains pays. Quand il y a handicap, c'est fini, hein, la moto, c'est terminé. Nous, on a eu des gens qui ont pris des adresses en France et qui habitaient au Luxembourg pour passer le permis en France.
Ah oui.
Et après, le faire convertir en permis européen, quoi.
Ah oui.
Parce que dans leur
c'est
pays,
dur, hein,
c'était
ça, c'est dur, hein, l'interdiction totale, juste parce que, en fait, c'est le manque de savoir-faire mécanique,
parce que ça n'a pas été
envisagé. Du fait qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes concernées, et donc
on
interdit et c'est fini.
Parce que, comme nous, au départ, à Handicap Moteur Sûreté, les gens qui donnaient leur accord pour les permis auto, c'était des chirurgiens qui réparaient des moteurs. Donc, ils ne voulaient pas remettre des gens parce qu'ils se sentaient responsables. Moi, quand j'ai voulu faire de la moto, on m'a dit, mais t'en as pas eu assez, vous voyez?
Alors,
ce qu'on voulait, c'était leur prouver qu'on pouvait rouler dans de bonnes conditions, avec des aménagements qui correspondaient au handicap, sans difficulté. Et d'ailleurs, c'est prouvé parce qu'on a très peu d'accidents chez nous. Sur les adhérents à qui on a fait passer le permis, on a très très peu d'accidents.
Oui.
Oui.
Oui, c'est pas le fait qu'il y ait un handicap et une moto aménagée qui ait un plus grand taux de risque d'accident. Au contraire, vous allez avoir peut-être plus de prudence et puis vous connaissez votre moto.
Au contraire, les gens chez nous qui sont passés par là, ils ont une douleur qui ressentent, qui est ancrée au fond d'eux-mêmes. Moi, on me dit toujours, t'as un seuil de tolérance de douleur qui est énorme, mais par rapport à ce que j'ai vécu, je suis retrouvé sous la route avec une fracture ouverte, de l'os qui sort, le biceps coupé en deux. Le seuil de tolérance de la douleur, il est énorme. Mmh. Alors, ces gens-là, ils ont ça ancré en eux et ils veulent pas revivre ça un jour.
Oui.
Donc, ils sont tellement focus là-dessus qu'ils sont super prudents en moto maintenant.
Oui, à travers ça, ça veut dire que c'est pas des têtes brûlées inconscients, c'est juste des passionnés qui veulent continuer à vivre leur passion, quoi, et le plaisir des balades.
C'est pas des têtes brûlées, parce que pour revenir à la moto avec un handicap, c'est une réflexion qui est longue.
Oui. Oui.
Donc les gens réfléchissent à savoir pourquoi, le comment, et c'est ça, quoi.
Avec une période de doute, même aussi, sûrement.
Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai pas dormi quand j'ai récupéré le sidecar avant de repasser le permis, t'es dans le garage. Je me suis revu 15 ans avant, voir l'accident. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas une connerie, quoi?
Oui,
c'est sûr. Hein. Mais alors, une fois qu'on reprend goût à l'air, à l'environnement, aux senteurs, c'est fini, quoi.
Je suis d'accord avec toi.
Au vent sur le visage, au moteur qui vibre entre les jambes.
Les odeurs, là, il pleut un peu sur la route sèche, les foins coupés, voilà.
Oui. Ça, les fleurs.
Oui, ça c'est la moto.
Fleurs, et ça donne toutes les réponses des raisons pour lesquelles vous êtes de nouveau sur les deux roues, c'est chouette. C'est génial.
Oui, et puis la convivialité. Hein, moi, quand j'ai repris la moto, je suis revenu dans une famille, j'étais pas un handicapé, j'étais un motard. Hein.
Eh oui. Ah oui, alors justement, le monde des motards, la solidarité a pris tout son sens aussi, tant moral que matériel, physique.
Alors, plus dans les années 2000 que maintenant.
D'accord.
Je dis que maintenant, ça se perd un peu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas motards. Ils achètent une moto parce que c'est un déplacement qui est pratique.
Encore d'accord avec toi.
Ils n'ont pas l'esprit motard.
Motard comme nous, on avait.
Tout à fait.
Voilà.
Métiers, peut-être qu'ils sont ouverts certains véhicules, mais tu as quand même encore un noyau dur de motards.
Oui, il y a un noyau dur, oui. Mais on le voit dans les assises FFMC ou les assemblées régionales de la Mutuelle. Il y a beaucoup d'anciens.
Voilà.
On le voit là, moi je le vois à chaque fois que j'y vais, je le vois là, il y a beaucoup d'anciens.
C'est les anciens.
Même nous, à Handicap Motard Sûreté, on le voit, on a des gens qui viennent, qui prennent une moto, qui passent le permis et qu'on ne revoit jamais, qui n'adhèrent pas. On est devenu un peu du consommable. Ouais. C'est dans l'air du temps, hein, c'est comme ça. Hein.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rallier les jeunes qui se sentent concernés si ça ne vient pas d'eux-mêmes?
Alors nous, on essaie de les intégrer en leur montrant ce qu'on fait, en les invitant à venir sur notre assemblée générale, sur les manifestations où on est, pour qu'ils s'intègrent, pour qu'ils apprécient ça, mais c'est compliqué. Hein. C'est pas dans les... On est dans une société qui est comme ça maintenant. Les associations ont beaucoup de mal à recruter quand même.
D'où l'importance d'adhérer pour faire vivre ces associations,
oui.
Tout à fait.
Oui, oui.
Alors, si vous voulez bien, on va faire une petite... coupure musicale, mais il ne faut pas dire coupure musicale, hein, c'est ça Gilles. Là, c'est loupé. En tout cas, on se fait cette petite pause avec Téléphone, Le jour s'est levé, et on se retrouve tout de suite après avec Césario, Philippe, toujours sur les ondes de CFM Radio de Cahors, avec votre émission FFMC 46, l'écho du bitume, à tout de suite.
Le jour s'est levé sur une étrange idée, je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité, si ce n'était pas un rêve qui passe, s'en aller, comme le jour avançait. En moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté, qu'ai-je donc à garder, qui ne sera soufflé. Oui, le voile est levé, tout est si coloré, qu'ai-je donc à donner. Que la nuit m'a soufflé. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, et qu'il est déjà tard. Déjà tard. Mais pas trop tard, à toi de voir, à toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une nuit. La vie vie n'est ta journée que si la mort lui.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Merci, chers auditeurs, de nous retrouver sur CFM Radio de Cahors, toujours dans votre émission FFMC 46, l'écho du bitume. Aujourd'hui, sur le thème « Avec mon handicap, mais jamais sans ma moto ». Jamais sans ma moto, c'est bien ça. Alors, avec Césario et Philippe. Donc, nous avons abordé toute la partie technique et là, on commençait à se demander comment rallier ces jeunes, puisque effectivement, les associations ont des difficultés à avoir des adhérents, en tout cas de 20 ans, même 20-30 ans des fois, et comment les porter à nos causes. La FFMC 46 par rapport au combat, et puis les combats aussi de HMS. Qu'est-ce qu'on pourrait donc, effectivement, les invitations, tu parlais, Philippe, sur les salons, mais autrement, peut-être aussi l'écho du quotidien, c'est-à-dire dans notre entourage. Toi, Césario, est-ce que tu as l'occasion de rencontrer des jeunes motards et de des fois les impacter sur le sujet ?
Les jeunes motards, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous excités un peu. Ils passent, comme dit Philippe, c'est que voilà, ils passent le permis, c'est pour faire les beaux, c'est pour faire les kékés. Et moi, ce que j'ai souvent envie de leur dire, méfiez-vous parce que vous avez que deux roues. Mmh. Et vous avez deux jambes et deux bras. Prenez soin de vous, quoi.
Oui.
Réfléchissez.
Ouais, ça, quand on est jeune, on le voit pas.
J'ai été percuté là il y a 4 mois. J'ai encore été percuté par une voiture qui n'a pas respecté le CD et le passage. Donc je suis allé m'écraser gentiment, mais je suis allé m'écraser dans l'air parce que je voulais pas abîmer la moto.
Est-ce qu'on devrait pas plus accentuer justement au permis voiture
Moi, ce que j'accentuerais,
le fait qu'il y ait d'autres véhicules.
Ce que j'accentuerais aujourd'hui, parce que dans mon cas à moi, c'était une personne âgée qui a été gêné, soi-disant, par le soleil. Voilà, c'est surtout faire attention à ces gens-là et toujours être vigilant quand on est au guidon. C'est de la vigilance à tout moment.
Oui.
Pourtant, je l'avais vu, mais il a redémarré et j'ai eu juste le temps de m'écarter.
Lors de nos ORJ avec la FFMC, on a tendance à dire aux jeunes qu'il faut être parano en moto, parce qu'en fait, effectivement, les automobilistes ne nous voient pas, ne nous entendent pas et prennent pas la mesure aussi de la vitesse et donc du fait qu'on est bientôt là. Tu confirmes, Philippe, par rapport à ça ?
Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est certain que ça devrait se passer au niveau d'éducation routière, mais dès le départ, dans la plus jeune enfance, à l'école, ça c'est sûr, et puis intégrer, un processus de la dangerosité de la moto, même pour le permis voiture. Il faut inciter les gens à réfléchir à ce qu'ils font au volant, mais comme je disais, c'est la jeunesse, malheureusement, bien souvent, on ne s'imagine pas avoir un accident, être mort ou avoir un handicap, donc voilà, il y a quand on est confronté à ça, quand on a un ami qui a ça, qu'on se rend compte. Ou alors faudrait je sais pas envoyer les gens qui passent le permis, les jeunes dans des centres de réadaptation voir les dégâts de la route.
J'allais le dire.
Oui,
peut-être qu'il faut sensibiliser comme ça parce que c'est marquant ça.
Voilà. Oui, j'allais le dire, tout à fait.
Voilà. J'ai fait des interventions dans les écoles avec un copain qui était amputé fémoral, mais très haut, au niveau du bassin. Les gamins regardaient en dessous de lui, mais elle est où ta jambe, monsieur? Et là, les profs nous disaient, mais on peut leur dire ce que vous voulez, vous, votre témoignage, le fait d'être vivant devant eux, ça les marque, ils vont s'en souvenir.
Oui.
Alors, je dis pas qu'on va tous les sauver, mais si on en sauve quelques-uns qui vont se souvenir de ça, c'est gagné.
C'est gagné, tout à fait.
C'est gagné.
Tout à fait.
Ouais, jouer la carte de la prudence, de la prévention, et puis... Témoignage qui est beaucoup plus marquant.
C'est pas trop dans l'air du temps, parce qu'il faut des budgets, c'est toujours pareil.
Oui, oui.
Voilà, donc, si on veut vraiment réduire la mortalité sur la route, même en moto...
Oui, mais Philippe, le budget, tout ça, je suis d'accord, mais quand quelqu'un se retrouve handicapé à vie, c'est un coût énorme.
Bien sûr, c'est un coût énorme, c'est des familles brisées, c'est tout ça, c'est énorme.
C'est pas quantifiable.
Non, c'est pas quantifiable, c'est certain. Quantifiable pour les assurances, quand il faut payer, c'est tout, mais le restant, c'est pas quantifiable.
Moi, pour revenir en arrière, la personne qui m'a percuté s'est arrêtée. Elle est revenue à pied vers moi, il y avait déjà quelqu'un. Et il a dit à l'autre personne qui m'assistait, je vais à la voiture, je vais faire je sais pas quoi. Et il est parti.
Ah oui, oui, oui.
Voilà, voilà. Oui. Et on l'a jamais retrouvé.
Ah oui. Voilà. Ah oui, en plus.
Voilà. Ah oui, 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 non, non, il est parti. Il est parti. Je suis persuadé que les deux personnes se connaissaient.
Ah oui, oui.
C'était une sortie d'usine, donc c'était très tard. D'accord. Il était 11h. Oui, oui. Je suis persuadé que les personnes sortaient au même moment et qu'ils devaient certainement avoir eu un pot ou un truc comme ça, parce que doubler dans un virage sur une ligne continue.
Oui, oui, oui.
En descente.
Oui.
Voilà,
oui.
Voilà.
Oui.
Voilà. Oui. Et la personne est partie. C'est surtout ça. Et moi, je lui en veux pas. Même aujourd'hui, je préfère être dans mon cas à moi que dans son cas à lui. Parce que
oui,
lui,
il
m'a vu, il m'a vu la jambe coupée et il a vu le sang gicler. Donc, dans sa tête, à mon avis, s'il est mort, tant mieux pour lui. Parce que vivre avec ça, je ne pense pas que ce soit évident. Je préfère être dans mon cas.
Il y en a qui arrivent.
Oui, mais enfin, il le garde en tête, Philippe. Imagine-toi. C'est pas possible d'effacer ça.
Oui, oui. Bah, moi, le copain dont je parlais tout à l'heure, qui est amputé assez haut, là, c'est un jeune qui venait de passer son bac, qui a arrosé ça, qui s'est endormi au volant et qui venait percuter le copain. Lui et son frère, les deux sur la moto, ont perdu une jambe.
Oh là là.
Et quand il est passé au tribunal, la mère du gamin a dit à mon copain, vous rendez compte, passer au tribunal, c'est qu'un accident, sa vie à mon fils qui a 18 ans, sa vie est foutue. Et le copain et son frère étaient sur une jambe. Ouais. C'est l'inversion des valeurs, vous voyez.
Oui. L'inversion des valeurs et aussi pour prendre la conscience qu'un accident et ses conséquences, ça touche plusieurs, ça touche tout le monde.
Oui. Sûr que la vie de son gamin allait être entachée de ça toute sa vie, oui, parce qu'il va falloir qu'il paye. Mais moi, je pense à mon pote. Hein.
Oui.
Il ne peut même pas être à Paris tellement il est amputé où.
Ah, bah non, je comprends.
Donc lui, il roule en sidecar aussi, quoi. Mais voilà. Ouais. Mais voilà, ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Il m'a dit, mais la maman m'a dit, mais la vie de mon fils de 18 ans est foutue. Il m'a dit, moi, j'étais sur une jambe, à vie.
Oui, effectivement, ce sont des témoignages. C'est des situations extrêmement fortes. Et quand on peut comprendre l'impact quand on est personnellement concerné, mais comme vous disiez aussi personnellement, ainsi que les familles, l'entourage et l'explosion qui va avec. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes la preuve, l'un comme l'autre, et les témoins de cette capacité à rebondir, ce courage et cette passion. Et aussi, ça donne un regard très inspirant et un témoignage très fort pour ceux qui nous écoutent et qui ont ou traversent aujourd'hui cette période-là, et dire que déjà, vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul, et même nous, les non-handicapés, il y a plein de gens bienveillants qui sont là et qui aimeraient aider, partager. Donc, comme vous le disiez en conseil, déjà, on ne fait pas remarquer l'handicap, soyons pas... même si j'ai ouvert l'émission là-dessus, il fallait bien rentrer dans le vif du sujet par rapport au titre. Mais justement, quelles sont les maladresses ou qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que non-handicapés, pour vous montrer la bienveillance et l'accompagnement, pour aider les familles ou les amis
simplement
ou les anonymes
pas nous regarder comme des gens bizarres. Je suis quelqu'un que comme tout le monde, je paye mes impôts, j'ai travaillé toute ma vie, même s'il me manque un bras, je dis voilà, c'est le handicap, moi je dis tout le temps, il est dans le regard des autres.
Oui.
Tout à fait.
Alors, j'irais même plus loin, dans le sens où, par rapport à Will, à Aubagne, quand on est allé faire les courses, moi, j'ai surtout senti beaucoup de gêne dans les gens qu'on croisait, les anonymes, plutôt qu'un regard bizarre, mais peut-être parce que j'ai pas passé assez de temps comme vous au quotidien. Mais là, moi, où j'aurais une tendance à être en colère, c'est surtout les aménagements qui ne sont pas toujours aujourd'hui adaptés. Le simple distributeur de monnaie, les trottoirs, les travaux de places magnifiques, mais où tu ne peux pas poser un orteil, un fauteuil, une canne, un appui ou une prothèse. Enfin, il y a à un moment donné, tous ces gens qui réfléchissent à ces aménagements, il y aurait aussi un gros travail à faire là-dessus, pour le quotidien.
Il faudrait qu'ils demandent l'avis aux personnes qui sont handicapées. Chaque fois qu'ils font un aménagement, c'est convoquer quelqu'un qui s'est
Un représentant,
qui est concerné,
mais bien sûr.
Voilà. on adapte une place de parking handicapé, on fait venir un gars en fauteuil roulant avec sa voiture et on regarde comment on aménage par rapport à ses difficultés. Mais tout ça, c'est pensé par des technocrates qui ne sont pas forcément concernés.
Et ça, ça manque surtout de bon sens aussi. Hein, parce
oui,
que,
voilà, c'est, dire, ça, c'est une question de bon sens. Oui, c'est une question de bon sens.
Tu es d'accord avec ça, César?
Ah oui, c'est une question de bon sens, oui. Non, non, je suis d'accord avec ça, ouais. Mais c'est pas fait, donc...
Bon, en espérant que les choses vont changer, évoluer, il a fallu 20 ans...
Tout doucement.
Tout doucement. Bah, il serait temps de mettre un coup d'accélérateur, là, non? Ils n'ont pas de deuxième.
Plus de 20 ans pour faire modifier un texte concernant le handicap et la moto,
déjà.
Ça évolue doucement.
Mais, ouais.
on lâche rien. Hein.
Voilà, c'est ça. Ne rien lâcher.
Et puis,
par les témoignages, le partage, pouvoir continuer le combat. C'est un combat tous les jours. Alors,
le handicap, c'est un combat. C'était un luxe, moi, je dis, parce qu'il coûte cher. En plus, on a besoin d'aménagement, on a besoin de choses. Voilà, vous avez une voiture, il faut un aménagement sous la voiture. Vous avez une moto, il faut un aménagement sous la moto. C'est du luxe, finalement, quand on y réfléchit.
C'est pas faux. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission avec vos témoignages. Je vous remercie encore chaleureusement d'avoir accepté cette invitation.
Avec plaisir.
Oui, avec plaisir, oui.
Merci beaucoup pour vos témoignages aussi touchants qu'inspirants. Merci pour votre passion. Merci d'être là. Et donc, n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à retrouver l'association HMS Handicap Motard Solidarité sur Facebook, sur leur site internet, à retrouver toutes ces informations sur notre site ffmc46.fr ainsi que sur notre Facebook où seront relayés tous les contacts pour continuer ce partage et continuer le combat, l'engagement. Merci à vous. Messieurs, merci Césario.
Merci tout le monde. Merci Philippe de nous avoir accompagnés.
Merci Philippe.
Merci à vous et Césario, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à C4.
Ah, j'espère aussi, oui.
Oui, hein,
très intéressant. Plaisir. Très intéressant.
Oui, très intéressant.
Ah, ouais.
Et ben, je donne les coordonnées des uns et des autres et puis au plaisir d'apprendre que vous vous serez retrouvés. Et puis moi, je vous donne rendez-vous quand même au salon de la moto en février. À Lyon.
On va noter ça.
Et on va boire un canon. On va boire un canon. Je piperai rien à la mécanique, mais j'écouterai bien. À bientôt, chers auditeurs, auditrices, sur les ondes de CFM Radio Cahors, toujours pour votre émission FFMC 46, les codes du bitume. Merci à tous. Merci beaucoup.
CFM Radio. 40 ans de liberté. 40 ans d'expression. She knows.